BFM Business, BFM Crypto, les pros, avec Stéphane Pedrazzi.
Les pros des cryptos, comme tous les vendredis, on va revenir sur les faits marquants de la semaine. On va notamment parler du retracement du Bitcoin après les records de la semaine dernière. On va aussi parler du rapport de l'ADAN sur le profil des détenteurs de cryptos. Vous allez le voir, on a appris pas mal de choses. Et puis on parlera de la Paris Blockchain Week. Elle aura lieu du 9 au 11 avril prochain. BFM Business est partenaire de cet événement. Ce sera l'occasion de faire le point sur les ambitions de la France en matière de crypto, de Web3, mais aussi, vous le verrez, d'intelligence artificielle. Voilà pour le sommaire. Salut à tous. Bonjour à Claire Balva, VP Stratégie chez Desbloc.
Bonjour. Bonjour Stéphane.
Bonjour à Thibaut Boutroux, directeur des opérations de Meria, qui est en duplex avec nous, et Michael Amar, président de la Paris Blockchain Week. On en parlera en détail dans quelques minutes. Mais d'abord le retracement de Bitcoin, évidemment, ces derniers jours. On en parle avec Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
On perd à peu près 12% depuis l'ATH, depuis le record du Bitcoin la semaine dernière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et surtout, graphiquement, quelles sont les perspectives ?
Eh bien, aujourd'hui, on repère un peu plus de 3%. Alors, c'est vrai que Stéphane, on évoquait ici mardi, alors que le Bitcoin perdait 7%, que la fête était finie à court terme et l'occasion, justement, de refaire les courses, au moins en partie. Alors, depuis, il avait repris 10% le lendemain, un peu plus sur son copain l'Ether. Alors, c'est vrai que depuis hier, ça retombe un peu, ce qui signifie finalement que techniquement, la situation s'est neutralisée à court terme entre 61 000 dollars en bas sur Bitcoin et 68 500 dollars en haut. L'équivalent sur l'Ether, c'est 3 100 dollars en bas et 3 600 dollars en haut. Donc, pour le numéro 1 et numéro 2, des crypto-monnaies les plus valorisées sur le marché, l'enjeu est de s'extraire de cette phase de neutralisation dans laquelle on s'installe. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que cette phase de consolidation a été rapidement soutenue par les acheteurs, l'intérêt est donc présent. Il n'y a pour le moment absolument aucun signe de retournement à moyen et long terme. La mauvaise nouvelle, c'est que qui dit neutralisation, dit va-et-vient, le marché va devenir plus technique. Et ça ne montera plus en ligne droite comme ça a été le cas tout au long du mois de février jusqu'à récemment. Donc notre stratégie finalement de la semaine reste la même pour les jours à venir, c'est-à-dire exploiter les replis lorsqu'il y en a de 10-20%, ça peut aller très vite, pour revendre en partie lorsque ça remonte de 10-20%. Certaines crypto-monnaies l'ont fait d'ailleurs ces derniers jours, ça c'est pour la partie gestion active. Et c'est vrai que pour le long terme, vu qu'on part du principe que cette phase plus calme et plus neutre va durer, on se repositionnera plutôt sur des niveaux clés de long terme. En voici quelques-uns pour vous donner des idées. 57 000 dollars, 49 000, voire 41 000 dollars sur Bitcoin, ou encore 2 700, voire 2 100 dollars sur l'Ether. Alors, je rappelle, vous l'avez dit, effectivement, on a perdu 12% depuis les ATH. Je rappelle quand même que le Bitcoin a gagné 170% depuis le mois d'octobre. Il en gagne encore 145%. Plus 120% sur l'Ether depuis octobre. Au plus haut, il y a deux semaines, c'était plus 170%. Donc, dans la mesure où on achète rarement en bas pour revendre tout pile poil au point haut, premièrement, ça ne sert à rien de regarder son wallet en regrettant a posteriori le précédent plus haut de son portefeuille. Deuxième chose, on travaille par zone technique. Si on ne fait pas d'analyse technique, plutôt par niveau psychologique. Et ce, progressivement par palier. On décompose ses entrées, on décompose ses sorties. Et troisième chose, ne jamais euphoriser quand tout semble acquis, qu'on se sent invincible, parce que le marché peut perdre 20% en une semaine. Il nous l'a encore montré. Et à l'inverse, ne jamais paniquer quand on perd 10, 15, 20%. Il peut les reprendre rapidement. Il a rattrapé la moitié de cette contre-performance en une journée. Donc, si je devais résumer, la hausse long terme pour nous n'est pas terminée. C'est juste une pause à court terme qui toutefois peut perdurer.
Xavier, comment ça se passe sur les autres cryptos ? On n'a pas eu de record, on n'a pas eu d'ATH sur l'Ether, mais est-ce qu'on a suivi le même mouvement que Bitcoin, c'est-à-dire un recul de 12, 13, 14% ces derniers jours ?
Oui, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Depuis ces records annuels, en tout cas, l'Ether avait reperdu à peu près 20%. On en a parlé mardi, vous pouvez rebondir, on a pris un peu plus de 10%, donc on est à peu près dans la même situation technique. On a toujours des notions un peu de ce qu'on appelle de surperformance et sous-performance de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. L'Ether sous-performe à nouveau le Bitcoin. Il avait surperformé lorsqu'on avait eu l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur sur les autres crypto-monnaies. Après, parce qu'il y en a quand même des milliers, on est effectivement toujours un petit peu dans la même ligne directrice. Et pour ça, il faut regarder un peu la capitalisation totale. Et si on regarde la capitalisation totale, donc qui valorise l'ensemble des crypto-monnaies, on a perdu grosso modo 20% depuis les records qu'on a fait il y a deux semaines. Ça rebondit en début de semaine. Là, c'est en train de retomber un petit peu, mais encore une fois, de manière globale, on est plutôt dans une phase plus calme, en tout cas à court terme.
Merci beaucoup, Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. On va maintenant revenir sur ce rapport qui a été remis en début de semaine à la nouvelle secrétaire d'État en charge du numérique, Marina Ferrari. C'est un rapport de l'ADAN, l'Association de défense des actifs numériques, qui a été réalisé par Ipsos et KPMG. Et on y apprend, Claire, que 12% des Français détiennent des cryptos. C'était un petit peu moins de 10% il y a un an.
Oui, c'est ça. On est à 12%. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est à 12%, alors même qu'on sort d'une année quand même un peu morose au niveau des prix. Les deux dernières années ont été assez difficiles pour le secteur. On est à 12% d'utilisateurs qui détiennent des cryptos et on est même à 15% de Français qui en ont déjà détenu.
Donc compte tenu du contexte, c'est pas si mal.
Donc c'est même très bien puisque l'adoption continue de progresser et puis on commence à avoir des données sur le profil type aussi du détenteur de crypto. Alors les années précédentes, on voyait déjà que c'était un profil plutôt jeune, en majorité des hommes, et on voit que cette tendance s'accentue puisque
c'est plus jeune encore.
C'est encore plus jeune
et encore plus masculin.
Souvent des hommes, exactement. Ouais. Alors ce qu'on imagine, c'est que dans les périodes de difficulté, dans les périodes moroses au niveau des prix des cryptos, ça va être les profils les plus typiques, on va dire, donc des hommes particulièrement jeunes qui vont continuer à aller sur cet actif-là. Alors que dans les périodes d'euphorie, on a une plus grande diversité des profils qui s'y intéressent.
Mais tu es une professionnelle de la finance et tu sais très bien, pour l'avoir déjà dit sur ce plateau, que les femmes n'ont pas le même comportement en investissement que les hommes.
Elles sont généralement un peu plus prudentes et cette prudence, elle se matérialise effectivement dans les périodes difficiles. Là, ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, on était à 50% des investisseurs qui avaient moins de 35 ans et on est monté à 57%. Donc la jeunesse, voilà, s'accentue particulièrement. On a même fait dans ce sondage des questions un peu plus politiques pour savoir vers quelle partie les votes des détenteurs de crypto penchaient.
Et là, très à gauche quand même. Hein.
Alors, c'est plus à gauche que la moyenne nationale. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de causalité entre le vote et la détention de crypto. Par contre, il y a une corrélation entre la détention de crypto et l'âge. Et on sait qu'il y a aussi une corrélation entre l'âge et le vote, puisque les jeunes votent généralement plus à gauche que leurs aînés. Donc, tout ça est aussi très logique.
Alors, le rapport est intéressant parce qu'il permet de faire une comparaison avec nos voisins européens. On a également mesuré l'adoption au-delà de nos frontières. On entend un petit peu tout et n'importe quoi sur la position de la France. On dit qu'elle est précurseur, parfois qu'elle est en retard. Thibault, qu'est-ce qu'il en ressort de ce rapport sur la France comparé aux autres pays européens ?
Oui, c'est vrai. Alors, ça, en fait, ça va dépendre de quoi on parle. Si on prend vraiment l'adoption comme elle est posée dans le rapport, le rapport il dit la chose suivante. La France, elle occupe la troisième place en Europe, à peu près égalité avec l'Allemagne et sur les talons des Pays-Bas et du Royaume-Uni qui sont respectivement à 17 et 16% d'adoption. Donc on n'est pas très loin. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que là où les autres pays européens ont plutôt stagné dans leur croissance ou même reculé pour certains comme l'Italie sur 2023, la France a maintenu une croissance plutôt régulière qui va vers l'avant. Donc ça c'est le point intéressant et ça montre que on a peut-être une adoption qui est plus lente en France sur certains sujets, mais en tout cas elle est beaucoup plus organique et beaucoup plus régulière. Donc ça c'est la partie positive. Après il y a aussi un autre point qui sort dans le rapport, si on veut se comparer un petit peu aux autres pays, c'est qu'effectivement on nous positionne souvent comme précurseurs, notamment sur les sujets réglementaires. On a été un des premiers pays en Europe et dans le monde à poser un cadre réglementaire aux cryptos qui était entre guillemets strict mais surtout précis. Avec la narrative que ce serait un avantage compétitif pour les acteurs français. Et ce qu'on regarde, parce qu'il y a aussi une partie du rapport qui parle des plateformes d'échange sur lesquelles les Français vont acquérir leur crypto, vont conserver leur crypto. Et là, on constate que sur le top 15, il y a que 4 acteurs français. Et encore dans les 4 acteurs français, donc il y a Lydia, Coinhouse, Bitstack et Meria. Et sur ces 4, Lydia sous-traite ses services crypto à Bitpanda, qui est une société étrangère. Donc là, 3 acteurs sur 15, du coup, la première occupant la 9e place, c'est quand même plutôt un échec, surtout que quand on regarde, donc c'est des plateformes étrangères qui sont venues se réguler a posteriori en France. Il y a même certains acteurs qui ne sont pas régulés en France, qui sont dans le classement. Donc là, pour le coup, on se rend compte que la compétitivité des acteurs français, elle en a pris un petit peu un coup. Néanmoins, il faut quand même souligner qu'on a pas mal de champions en France sur d'autres sujets, des Ledger, des Soror qui sont leaders sur leur marché, donc tout n'est pas à jeter.
C'est intéressant cette partie sur l'industrie parce qu'on en parle justement dans le rapport de la DAN. Vous faites tous les deux partie de cette industrie, Claire Thibault. On a le sentiment quand même qu'on a retrouvé des jours meilleurs. Il faut dire qu'on sort de deux années particulièrement compliquées. Claire, qu'est-ce que dit précisément l'étude de la DAN sur les entreprises du Web3 en France ? Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez sur le terrain ?
Oui, alors ce que ça dit, en termes d'effectifs, c'est pas très réjouissant puisqu'on voit que dans les deux dernières années, il y a eu une baisse de 11% des effectifs qui, encore une fois, est assez logique quand on voit l'état de l'industrie au niveau mondial et plus généralement le contexte macroéconomique qu'on a eu dans les deux dernières années. Mais l'immense majorité des entreprises crypto, alors j'ai plus le chiffre, ça doit être autour de 80-90%, annoncent qu'elles vont se remettre à recruter en 2024. Donc il y a quand même de belles perspectives pour ces entreprises-là. Elles disent aussi la majorité d'entre elles qu'elles vont lever des fonds en 2024. Et alors quand on regarde en détail ce qui se passe dans les levées de fonds dans le milieu crypto, on voit qu'il y a pas mal de fonds français dans les premières levées de fonds, dans les phases d'amorçage, mais que dès qu'on arrive sur des séries A, séries B, ça devient plus difficile de trouver des fonds français. Donc les entreprises se tournent aussi plus souvent à l'international. Mais encore une fois, ça on le constate dans l'industrie crypto. La réalité c'est qu'on le constate dans beaucoup d'autres industries également.
Les projections pour le secteur, Thibault, qu'est-ce que dit l'étude sur les perspectives ?
Bah, les perspectives, elles sont plutôt optimistes et c'est assez logique parce que quand on voit que on a réussi à maintenir une croissance au niveau de l'adoption, même si elle est pas forcément exponentielle sur des années 2022-2023 qui étaient quand même plus compliquées pour le marché. Là, on entre dans une année 2024 où on a déjà été chercher des records, où Bitcoin est remis sur le devant de la scène. Donc, il y a fort à parier que cette adoption, elle va grandir. Et l'autre point qui est une perspective plutôt positive, c'est au niveau de l'éducation et de la sensibilisation du sujet en France, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le sujet. Bah, on voit que, et d'ailleurs, Mickaël va en parler après, que bah, la France accueille le plus gros événement blockchain en Europe, la Paris Blockchain Week. Qu'on a des gros créateurs de contenu en France, on a beaucoup de médias, on a des antennes comme BFM qui ont été précurseurs hein, pour parler de ce sujet. C'est pas le cas chez nos voisins européens, en tout cas pas chez tous. Donc ça, il faut quand même s'en réjouir et s'en féliciter. Là où moi j'émettrais une perspective un petit peu moins optimiste, c'est j'ai un doute sur la capacité justement des institutionnels, des régulateurs, des politiques à s'adapter aussi vite que la population finalement à l'évolution de ce marché, et on va peut-être à un moment donné créer un décalage. On le voit déjà sur certains sujets, donc il va falloir être vigilant, mais en tout cas les feux sont plutôt au vert.
On va parler justement de cet événement avec Mickaël Amar, président de la Paris Blockchain Week. C'est la cinquième édition du 9 au 11 avril. BFM Business est partenaire de cet événement. Qu'est-ce qu'on va y trouver précisément? À qui est-ce que ça s'adresse?
Alors, ça s'intéresse aux professionnels de la blockchain et des assets digitaux, de façon générique. On a 3 jours de conférences, à peu près 400 speakers du monde entier, et c'est en fait tous les faiseurs de l'industrie, donc que ce soit les plateformes d'échange, que ce soit les patrons des blockchains, ou alors des gens qui viennent aussi, des JP Morgan ou Goldman Sachs, de l'économie traditionnelle, et de voir comment ils rentrent effectivement dans l'économie digitale, des biens digitaux.
Cinquième édition, on a quand même le sentiment qu'elle s'ouvre dans un climat beaucoup moins tendu que les années précédentes. Claire en parlait, les deux dernières années ont été difficiles. Et puis là, on a quand même un flot de bonnes nouvelles. Records successifs sur le Bitcoin, les ETF en Bitcoin qui ont été lancés aux États-Unis, le halving bientôt qui va a priori donner encore un coup de pouce au Bitcoin en renforçant l'effet rareté. Le climat, pour résumer, on a l'impression qu'il y a un alignement de planètes qui ne s'est pas produit depuis longtemps.
Tout à fait, et ce qui est intéressant de regarder un peu sous le capot, parce que les effets que vous décrivez là, en fait, donc, les entreprises dans le domaine ont gardé une grosse partie de leur trésorerie en crypto. Et du coup, elles ont 170% de plus de cash que depuis le mois d'octobre, comme disait Xavier. Et donc ça, c'est un impact, parce que du coup, elles ont du cash, elles vont investir, que ce soit en marketing, en recrutement, en acquisition. Et donc ça crée une dynamique très importante sur le marché.
Ce qui est intéressant, c'est de faire le point sur la position de la France dans cet écosystème. On en parlait un petit peu avec Claire et Thibault. On a de grandes ambitions. Hein. Bruno Le Maire a eu l'occasion de le rappeler plusieurs fois. On a une nouvelle secrétaire en charge du numérique. Où est-ce qu'on en est réellement ?
Alors, c'est intéressant. Donc, la France, je pense, a été vraiment précurseur, comme ça a été dit, sur le côté légal. En fait, Bruno Le Maire avait ouvert la Paris Blockchain Week, la première édition, en 2019. Et il y a eu une vraie volonté qui s'est matérialisée avec la licence PSAN, en fait, qui a été, je pense, la première licence en Europe, si je ne me trompe pas.
Oui, en tout cas, parmi les premières. Oui,
parmi les premières. Ouais. Et donc, c'était super parce qu'on a réussi à avoir des acteurs majeurs qui sont venus et qui ont décidé de mettre leur headquarter en France. Les Circle, les Binance, les OKX, les Crypto.com. Donc ils pouvaient aller ailleurs, ils sont venus en France grâce au régime PSAN. Là, ça se tend un tout petit peu pour eux.
Parce qu'il y a un changement de réglementation.
Voilà, donc MiCA est imposé. Je crois que c'est d'ici la fin de l'année prochaine, les gens doivent être compliant pour les nouvelles régulations qui sont un cran quand même supérieur en termes de demande d'informations, de KYC, d'AML, etc. de la part de l'AMF. Et du coup, je pense que tant que les gens ne sont pas conformes, il y a une sorte d'attentisme en préparation.
Combien de temps il va falloir, à votre avis, à tous les deux, Claire et à vous, Michaël, combien de temps il va falloir à l'écosystème français pour s'adapter à cette nouvelle réglementation ?
Alors, c'est pas que c'est français, c'est tout le monde devrait être, tous les gens qui veulent proposer des biens digitaux, donc les plateformes.
Mais il va falloir que les Français se mettent à niveau.
Le
temps, en fait, on l'a, puisque ça fait longtemps qu'on sait que MiCA arrive.
Est-ce qu'on est prêt ?
Ça dépend qui. En fait, les très grandes entreprises sont prêtes, les banques sont prêtes. D'ailleurs, elles attendent cette réglementation de pied ferme parce que elles, ça va leur permettre d'avoir une stabilité réglementaire et une visibilité à long terme. Mais les plus petites entreprises, non, il y en a qui ne seront pas prêtes et qui ne le seront jamais, en fait, parce qu'elles n'auront pas l'argent et les ressources nécessaires pour investir et pour passer cet agrément.
Si j'ai bien compris, Thibault, on avait une réglementation, on avait un cadre qui était favorable et là, les choses vont changer. Il va falloir se mettre au niveau. C'est juste une question de temps ou est-ce qu'on est en train de perdre un avantage ?
On peut perdre un avantage.
Thibaut ?
Oui, alors déjà, l'harmonisation au niveau européen avec MiCA, elle est quand même assez largement calquée sur le cadre qui a été posé en France. Donc globalement, ça ne change rien à la feuille de route des acteurs français qui avaient prévu de continuer à aller dans cette direction. Là où il va y avoir peut-être des points de friction, c'est que on constate encore, et je suis bien placé pour en parler parce qu'on est nous dans toute cette démarche au niveau de l'agrément, c'est qu'il y a encore des sujets sur lesquels l'industrie est encore jeune, on n'a pas encore beaucoup de track record, elle se développe très vite en même temps et donc il faut que la réglementation soit capable de s'adapter très vite. C'est pas forcément le cas, on a des échelles de temps qui sont différentes et donc on est parfois confronté à des déconnexions un petit peu entre ce qui est attendu côté régulation, ce qui est possible à faire réellement sur le terrain. Et donc pour ça, il va falloir que ces deux mondes se parlent encore plus. Ils le font déjà beaucoup, mais qu'ils se parlent encore plus et que chacun il fasse un pas vers l'autre. En fait, c'est surtout ça qu'il va falloir faire parce qu'il y a encore des choses qui sont imposées sur lesquelles les outils n'existent pas. Donc on va pas pouvoir répondre à certaines obligations ou certaines exigences. Et de l'autre côté, il va falloir aussi que les acteurs mettent un peu du leur. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais globalement, c'est la suite logique. Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est signe que l'industrie est en train de se structurer et se développer. Et le fait qu'on ait ces discussions-là montre que les cryptos sont considérés, montre que ça devient un secteur qui est reconnu et un secteur qui a besoin d'être encadré parce que il devient plus grand.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les pans de l'économie. On en parle aussi, évidemment, dans le Web3. Et Michael, ce sera le thème central du RAISE Summit qui aura lieu à Paris le 8 avril, c'est-à-dire la veille de la Blockchain Week.
Oui, on voit vraiment beaucoup de similitudes. Et d'ailleurs, dans la startup compétition qu'on a organisée, on a plus de, je crois, 25 ou 30% des applications de startup qui marient AI et Web3. Donc c'est intéressant et on a beaucoup de CTO qui seront là lors de la conférence. On a voulu leur faire un événement qui est séparé sur la marque du RAISE Summit où on a Mistral par exemple qui vient ouvrir la cérémonie avec
notre CEO, champion national,
notre champion qui est clôturé par le patron de la BPI.
Nicolas Dufour.
On fera un cocorico, mais c'est un événement avant tout international. On a plus de 80% intervenants étrangers, donc c'est un peu le playbook de la Paris Blockchain Week et on a de très belles startups qui ne sont pas encore connues aussi, qui vont être présentées, qui vont pouvoir pitcher. Il y a un gros hackathon. Et c'est donc le 8 avril.
Donc à suivre, 8 avril, RAISE Summit et du 9 au 11 avril, la Paris Blockchain Week. Merci Michaël Amar d'être venu en plateau nous en parler. Dans l'actu également, on va parler de la SEC, c'est le régulateur du marché américain. Il aimerait qualifier l'Ether comme une valeur mobilière. Pourquoi est-ce que ça peut tout changer ? Quelles peuvent être les conséquences, Claire ?
Oui, ça fait longtemps que la question se pose et ça fait longtemps que Gary Gensler, le patron de la SEC, refuse de répondre à cette question. Mais on sent bien que la SEC aimerait bien que l'Ether, donc la crypto-monnaie derrière le réseau Ethereum, soit qualifiée de titre financier ou valeur mobilière ou security. Ça, ce serait catastrophique pour l'écosystème, pour le secteur, parce que ça aurait des conséquences financières et juridiques assez dramatiques. D'une part, il y aurait des questions sur est-ce que, par exemple, l'émission des premiers Ethers, donc l'ICO d'Ethereum, serait une émission de titre financier non régulière, donc est-ce qu'il y aurait des amendes à payer? Est-ce que les plateformes devraient délister l'Ether et d'autres jetons potentiellement? Donc vraiment, le secteur n'a aucun intérêt à ce que l'Ether soit qualifié de titre financier. Mais on sent bien que la SEC veut qualifier l'Ether de titre financier pour éviter notamment de valider les ETF Ethereum Spot. C'est l'une des raisons. Alors, je précise quand même qu'aux États-Unis, il n'y a pas de consensus là-dessus, notamment parce qu'une autre agence, la CFTC, considère, elle, que l'Ether est une marchandise. Et donc, il y a un vrai désaccord politique entre ces institutions. Et donc, la bataille n'est pas du tout finie. C'est même probable que la SEC perde ce jeu-là.
La conséquence directe, ça serait, Thibault, vous le pensez aussi, l'approbation de l'ETF Ether en spot, comme on a eu sur Bitcoin au début de l'année?
Ouais, c'est certain. Si effectivement la SEC obtient un gain de cause, ça réduit significativement, voire totalement, les chances de voir un ETF spot Ether approuvé. D'ailleurs, les analyses, il y a des analystes Bloomberg qui ont pris la parole sur le sujet en disant clairement que si ça passait dans cette direction, on tombait à 0% de chance, alors qu'ils estiment aujourd'hui qu'on est à peu près un peu moins de 50% d'avoir une approbation pour le mois de mai. Donc il va falloir suivre ça de près. C'est un dossier qui est très complexe parce que, comme Claire l'a dit, toutes les institutions ne sont pas d'accord sur le sujet. Donc la SEC n'est pas seule à mener la bataille. C'est pas non plus une bataille qui date d'aujourd'hui. Ça fait déjà un moment qu'on sait que la SEC a cette idée derrière la tête. On a des journalistes qui commencent à fouiller aussi et qui ressortent des vieux dossiers. J'ai vu passer un dossier de Fortune qui disait que la SEC avait rencontré les équipes d'Ether en 2019, je crois, et que suite au rendez-vous, ils avaient, eux d'ailleurs, fait une trace écrite en disant que Bitcoin et Ether aussi, finalement, sortaient de leur champ d'action. Donc aujourd'hui, ils reviennent un petit peu sur cette position. Donc quoi qu'il arrive, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je pense qu'il va falloir patienter pour l'approbation de l'ETF Spot dans tous les cas. Mais c'est un dossier qui est très complexe. Et là où je voudrais nuancer un tout petit peu, c'est qu'effectivement, ça aurait des conséquences qui seraient un peu dramatiques pour l'écosystème, mais il ne faut pas non plus réduire Ether juste à l'approbation d'un ETF spot, puisque peu importe la qualification qu'il a, ça ne remet pas en cause les sous-jacents techniques et ce qu'on peut faire avec l'Ether. Donc il faut juste nuancer un petit peu ça, mais en tout cas, c'est sûr que ce ne serait pas une bonne chose pour l'écosystème que ça prenne cette direction.
Claire ?
Oui, non, ça ne remet pas du tout en cause effectivement le sous-jacent technique. En revanche, ça remettrait en cause l'accessibilité de l'Ether sur un certain nombre de plateformes parce qu'il y aurait, par exemple, beaucoup plus de paperasse. Et on sent que l'enquête de la SEC s'intensifie en ce moment puisqu'on a 3 témoignages. Alors, c'est des sources qui sont anonymes, mais qui travaillent dans des entreprises liées à la Fondation Ethereum. La Fondation Ethereum, c'est quoi ? C'est une organisation qui a pour but de promouvoir l'utilisation de la blockchain Ethereum. Et donc, ces personnes-là disent on a été cités à comparaître par la SEC et on nous a demandé tout un tas de documents financiers qui visent a priori à prouver que l'Ether est une security.
Merci à tous, merci d'avoir participé à cette édition des Pros des Cryptos. Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock. Merci à Thibaut Boutrou, directeur des opérations chez Meria. Et Michael Amar, président de la Paris Blockchain Week. Ce sera du 9 au 11 avril prochain. On aura bien sûr l'occasion de vous en reparler puisque BFM Business est partenaire de l'événement. Les cryptos seront de retour lundi dans BFM Crypto avec Amaury de Tonquédec qui est de retour. Rendez-vous donc lundi à 15h. Moi, je vous retrouve tout de suite pour BFM Bourse. Restez avec nous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.